parti pour une nouvelle semaine avec deux invités à vos côtés aujourd'hui, Héloïse Buton et Carole Biron.
Exactement, et on prépare déjà la fin de semaine, le week-end, avec cette nuit des musées qui arrive le samedi 17 mai. Évidemment, un rendez-vous non seulement national mais aussi européen. Et puis le vernissage festif le 23 mai, ça va s'appeler la grande soirée. Ce sera au musée Charles-Mille Sandeau. C'est un temps fort de début de saison, on va dire, avec cette exposition temporaire remarquable que j'ai pu aller voir, qui est vraiment exceptionnelle, dite d'intérêt national. C'est un label. Et pour en parler, l'expo s'appelle Mille Sandeau, la fabrique d'un artiste. On reçoit Héloïse Buton, qui est chargée de la programmation événementielle d'Océan Marais de Mont. Et puis Carole Biron, qui est chargée des collections. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Alors, c'est une exposition absolument remarquable, à plus d'un titre. On va redonner un petit peu le contexte de ce musée qui est installé juste à côté de la maison du peintre, dans un havre de verdure qui a été respecté. Moi, quand j'y rentre, à chaque fois, je me dis, ah, vraiment, c'était le décor de Charles-Mille Sandeau il y a près de 100 ans, hein, si ce n'est plus maintenant. Vous vous dites ça aussi, Carole, quand vous rentrez dans le
site? Oui, il y a toujours une petite émotion à arriver sur le site en se disant que Charles-Mille Sandeau a foulé ce sol-là. Et actuellement, alors, il y a quelques modifications, bien évidemment, par rapport à l'époque de Charles-Mille Sandeau, le musée,
oui,
tout simplement, est un bâtiment moderne qui a été construit a posteriori. Mais il y a tout un travail de réflexion sur le jardin, les extérieurs, pour revenir au projet initial et à ce qu'a connu Charles-Mille Sandeau, d'autant plus que maintenant la maison fait l'objet de travaux et que tout ça fait partie d'un ensemble. On va essayer de restituer l'état historique.
Alors, pour ceux qui suivent, les travaux, ils sont en cours. Une partie a été faite et ça y est, on peut la revisiter là pour la saison.
Oui, ça y est, on est content puisque la première phase de travaux s'est terminée au mois d'avril et que la maison a réouvert ses portes jeudi dernier.
Tout récemment.
Dans un état entre deux eaux, puisque les peintures n'ont pas encore été restaurées. Là, on intervenait sur le bâtiment pour assainir le bâtiment. La deuxième phase aura lieu à l'automne, mais la maison est ouverte, donc tout le monde peut venir voir les peintures.
Et petite parenthèse, les peintures vont être restaurées par, j'imagine, des spécialistes.
Oui. Oui, en tant que monument historique, on a des obligations. C'est un cadre légal très contraint. On est suivi et contrôlé par l'État pour pouvoir respecter les règles. Et toutes les entreprises qui interviennent sur le monument sont agréées spécialement. Et sur les peintures, nous avons des restaurateurs.
Oui, parce qu'il y a des peintures à l'intérieur qui sont faites par Mille Sandeau. Hein. Ce n'est pas une peinture blanche. Voilà, on précise quand même. Mais c'est absolument à voir. Carole, vous vous consacrez en fait depuis des années maintenant à ce sujet, à celui de Mille Sandeau. Alors, vous êtes chargée des collections, donc pas forcément que du musée Mille Sandeau.
Non. Moi, je travaille sur les sites patrimoniaux de la communauté de communes Océan-Marais de Mont, qui comprend aussi le Davio, donc les deux musées de France qui conservent des collections conséquentes en ethnographie et en beaux-arts principalement. Donc, on intervient sur tous les champs.
Et qui seront ouverts donc tous les deux, enfin, avec la nuit des musées. Mais vous avez quand même consacré un temps particulier au musée Mille Sandeau. Vous avez fait de la recherche jusqu'à Paris, puisque vous avez obtenu avec Océan-Marais de Mont une bourse. Voilà, racontez-nous un peu l'histoire de tout ce travail qui est fait autour du musée par Océan-Marais de Mont.
Alors, le travail de l'ombre, hein, puisqu'une exposition, comme des médiations, des visites guidées, se base sur du contenu qu'on produit, nous, en tant que musée. On produit du contenu scientifique et donc tout ça nécessite de faire des recherches et dans ce cadre-là, on peut bénéficier de soutien de certaines institutions comme l'Institution Nationale d'Histoire de l'Art qui propose pour les agents territoriaux qui travaillent dans les collectivités territoriales un soutien financier pour pouvoir aller faire les recherches à Paris.
Vous avez combien de temps à Paris et où exactement?
Alors, on a obtenu une bourse de 2 mois de recherche qui m'a permis d'aller à Paris, consulter la documentation qui se trouve dans les bibliothèques. Donc, il y a la Bibliothèque Nationale de France, la Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, qui est la bibliothèque la plus importante en histoire de l'art du monde. Puis, tous les centres de documentation et bibliothèques des grands musées nationaux qu'on trouve, comme le Louvre, Orsay, Beaubourg, etc.
Et vous avez découvert beaucoup de choses sur Mille Sandeau?
Alors, on affine. Déjà, beaucoup de travail avait été fait, puisque le musée a 40 ans et la recherche qui va avec avait 40 ans aussi. Donc une grosse base existait, mais là on est en train d'affiner notamment toute la partie parisienne et toutes les ramifications qu'il y avait avec ce réseau artistique de la fin du 19e siècle.
Et quand vous partez en fait en recherche, vous ne dites pas on va faire une expo, mais en fait si, finalement ça aboutit à une expo parce qu'il y a eu beaucoup de... Si vous pensez...
Alors on ne part pas avec une exposition en tête, par contre on sait que notre travail, la valorisation c'est une exposition en musée pour le remettre au grand public, on passe par l'exposition.
Et donc, c'est l'exposition qui s'est ouverte, hein, qui est l'aboutissement de toute cette recherche.
Donc, qui a ouvert le 5 avril. On a pu monter cette exposition, donc c'est 2 ans de travail. Et l'objectif, c'était de reparcourir ce chemin que Mille Sandeau a fait à Paris, de son arrivée à l'école des Beaux-Arts en tant que jeune étudiant à 18 ans, jusqu'au... à la zone marchande finalement, comment il a vendu son œuvre, comment il l'a exposé à Paris.
Donc il a 18 ans quand il part à Paris, il est né à Soulan, il grandit à Soulan ?
Oui, il grandit à Soulan, auprès de son père aubergiste sur la place principale de l'église à Soulan. Il a de la chance parce que son père est très, très moderne finalement, puisqu'il le soutient dans ses études d'art. Il faut se remettre à la fin 19e.
Un petit maréchin fin 19e qui part à Paris aux Beaux-Arts, voilà. c'est pas anodin.
Et donc effectivement, lui aussi a bénéficié d'une bourse pour aller à Paris, mais une bourse paternelle qui lui a permis d'intégrer l'école des Beaux-Arts et donc de continuer à s'exprimer à travers son art et notamment son dessin.
Il arrive à 18 ans, vous l'avez dit, en quelle année alors à Paris ?
En 1890.
Ok, donc on commence déjà un petit peu à situer. On n'est pas encore sûr, mais il va quand même s'inscrire à l'école des Beaux-Arts. Oui. Quand même déjà la première école artistique sur le secteur, et puis il va rentrer dans tout un réseau culturel, artistique, et côtoyer des grands déjà. Alors, je ne sais pas si c'était grand déjà, mais si pour certains, il était quand même très connu pour certains. Oui. Je pense à Toulouse-Lautrec.
Tout à fait. Alors effectivement, cette fin du 19e, elle est assez exceptionnelle, puisqu'il y a une forme de libéralisation des arts, des cours artistiques qui s'expriment, qui sont moins académiques qu'avant. On pense aux impressionnistes, qui sont bien entendu les plus connus. Mais en cette fin du 19e siècle, il y a surtout Montmartre qui se développe, et notamment Toulouse-Lautrec que vous avez mentionné. Qui va vraiment animer la vie artistique parisienne. Et puis, au sein de l'École des Beaux-Arts, il y a un petit foyer, un foyer de révolte, comme disait le critique Roger Marx, qui commence à émerger, avec notamment Henri Matisse, qui va mener, lui, l'avant-garde artistique du début du XXe et qui est un camarade de Charles Messandeau.
Voilà, camarade de Charles Messandeau. Il étudie à ses côtés.
Oui, ils sont dans les mêmes ateliers et ils copient en même temps au Louvre. On a les registres des copistes du Louvre montrent que les deux ont copié en même temps.
Et alors, justement, quand on rentre aujourd'hui dans l'exposition que vous avez lancée dans le musée Messandeau, la première salle, ça va être justement celle de ses premières copies. Et qui font partie en fait de l'apprentissage de l'artiste.
C'est ça, donc l'idée de cette première salle, c'était d'expliquer aux gens que il y a presque 150 ans, on ne se créait pas artiste comme ça en se disant artiste. Il y avait quand même un cursus académique, il y avait tout un apprentissage, notamment des anciens et de la copie. Je parlais des copistes du Louvre. Messandeau, on sait qu'il a passé un temps incertain à aller copier les tableaux des autres et à commencer à former son œil.
Et alors, donc, il côtoie Toulouse-Lautrec, par exemple. On entre dans une autre salle et on voit un tout petit tableau. Il faut le savoir que c'est Toulouse-Lautrec que Charles Messandeau a peint, mais vous précisez.
Alors, c'est là tout l'intérêt du travail qu'on fait en musée. C'est-à-dire qu'on a, une image avec, là, c'est presque une mise en abîme, où on a une deuxième œuvre d'art peinte sur un tableau qui représente l'épouse de Charles Messandeau. Et là, il faut arriver à trouver qui c'est. Bon, on n'avait pas trop de doutes quant au style, mais c'était bien Toulouse-Lautrec, une lithographie qui était chez lui et qui actuellement, on en a des exemplaires encore conservés à Paris. On sait qu'ils se sont côtoyés dans les expositions.
Et donc voilà, il est super actif, il est jeune. Il commence aussi à se faire un nom parce qu'il va assez jeune, dans ses années parisiennes, être exposé dans des galeries.
Oui. Alors c'est tout le jeu, la difficulté d'être jeune provincial qui arrive à Paris. Il faut se constituer son réseau, ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes problématiques aujourd'hui. L'École des Beaux-Arts est exceptionnelle pour ça puisqu'en fait, on mélange plein de monde. Et il y a également les salons. Qui sont des expositions annuelles où là, tout le monde peut venir exposer. Et c'est évidemment un lieu de rencontre entre artistes et mécènes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à vendre sa peinture et à se faire connaître.
Et donc, il reste combien de temps à Paris exactement ?
Il y reste, alors il fait beaucoup d'allers-retours. On l'a appelé peintre voyageur, mais c'est parce qu'il alternait entre la Vendée puis découvre l'Espagne à partir de 1901. Mais il revient toujours à Paris. Il garde un pied-à-terre à Paris jusqu'à son décès en 1919. Mais il y retournera vraiment jusqu'en 1914 et l'arrivée de la Première Guerre mondiale.
Et en fait, avec vous, on voit que cette Première Guerre mondiale va sonner le glas un peu de son apprentissage parisien, effectivement, presque de sa carrière. On pourrait dire ça.
Oui,
alors c'est facile avec le recul.
ce premier conflit mondial, il a quand même stoppé beaucoup de choses, notamment au niveau des artistes. Paris était capitale internationale de l'art, même si au début du XXe siècle, ça commence à s'orienter vers les États-Unis. Et évidemment, avec l'arrêt de tout le système marchand et l'orientation vers l'économie de guerre, c'était beaucoup plus compliqué d'être artiste. Et puis malheureusement pour Messandeau, il meurt en 1919, donc il ne peut pas repartir après ce premier conflit.
Il est assez jeune. Vous avez travaillé à cette exposition à nous montrer effectivement ces années parisiennes d'apprentissage, cette belle foison d'artistes autour de lui, connus pour certains mois. Vous avez travaillé avec des partenaires, justement des grands musées, Orsay par exemple.
Oui, alors on est très contents parce que c'est vraiment un aboutissement du travail mené au sein de la communauté de communes. par l'équipe des sites patrimoniaux, c'est d'avoir pu être capable d'accueillir ces prêts nationaux, puisqu'il y a quand même des normes de conservation et de prêts assez drastiques. Et donc le musée s'est mis aux normes pour pouvoir accueillir ces œuvres-là. Et on a 3 œuvres du musée d'Orsay qui sont présentes, dont 2 qui sont en dépôt dans des musées en région, au musée d'art de Nantes et au musée de Quimper. On a également travaillé avec le musée Gustave Moreau, qui a été un partenaire privilégié, puisque Gustave Moreau était le maître de Charles Millesmeau.
Bah, c'est pas rien, Gustave Moreau, quoi. Pour ceux qui apprécient l'art, effectivement, il allait dans ses classes.
Oui, c'est ça.
Donc, le musée Gustave Moreau vous a prêté des œuvres. Alors, ce ne sont pas que des œuvres de Charles Millesmeau que vous présentez.
Non, et c'était tout l'intérêt de l'exposition, c'était d'ouvrir le regard sur les œuvres de Charles Millesmeau. On se représente souvent un peintre du Marais, mais en fait, il a subi plein de courants artistiques différents en termes d'influence. Et c'était de montrer les autres artistes qui avaient pu influencer sa pratique.
Donc on a quelques noms, vous pouvez citer, je ne sais pas, quelques...
Alors on a des œuvres de Gustave Moreau qui sont au musée, on a des œuvres de Georges Rouault qui était un de ses camarades d'atelier, qui est moins connu qu'Henri Matisse actuellement, mais qui a une salle au musée Beaubourg qui est actuellement fermée. Donc si vous voulez voir des Georges Rouault, venez au musée Millesmeau.
Il n'est pas fermé à Beaubourg, j'étais ce week-end, on croit, mais il va fermer bientôt.
Les expos temporaires sont fermées. Mais c'est les salles permanentes qui sont fermées, donc la salle Georges Rouault n'est pas accessible.
Merci Carole.
Mais après, on a des œuvres d'artistes symbolistes comme Alphonse Osberg, un artiste méconnu aussi, qu'on peut venir découvrir au musée.
Ouais. Et quand vous dites artiste méconnu, est-ce qu'on ne peut pas dire que Charles Millesmeau, c'est quand même un artiste assez méconnu? Pas oui. Pour nous, pas ici, mais globalement.
Oui. Concrètement, quand on va à Paris et qu'on parle de Charles Millesmeau, à part quelques spécialistes ou personnes réellement intéressées par cette phase d'histoire de l'art, même s'il y a des collectionneurs et des spécialistes, c'est pas lui qui est ressorti à côté d'Henri Matisse. Il est bien entendu passé en second plan, mais c'est un artiste à découvrir.
Ah mais absolument à découvrir. Et effectivement, vous nous montrez tout son travail, son apprentissage, ses œuvres inédites aussi. Vous avez sorti des collections?
Oui. Oui, tout l'intérêt de renouveler ces expositions tous les ans, c'est de faire tourner et de permettre aux visiteurs de découvrir nos fonds. Et donc là, on a sorti plusieurs œuvres des réserves, tout ce qui est documents graphiques, donc dessins, pastels, etc. Et puis on essaie d'exposer tant qu'il est possible les acquisitions des dernières années.
C'est une expo dite d'intérêt national, c'est un label important, on va expliquer pourquoi. On va la voir, donc on la voit, ça y est, hein, le musée est ouvert, on peut y aller quand on veut, mais surtout ce week-end vous avez la nuit des musées, donc c'est toujours un temps fort, gratuit, un peu spécial. Et puis la semaine suivante, ce vernissage festif, ce sera la grande soirée le 23 mai. On va en parler avec Héloïse aussi dans quelques minutes.
Merci Emmanuel, voici Ravin l'aîné sur Nova. Dove, ma radio, la suite des rendez-vous de midi, Emmanuel Achard.
Miardo Quito autour de Charles Milsando, du musée de sa maison, du jardin aussi qui s'épanouit. Ce week-end arrive la nuit européenne des musées, c'est samedi. On a plusieurs sites évidemment qui participent dans le secteur. Je pense au château de Noirmoutier, au musée Milsando, au Davio aussi, Loïse Buton qui s'occupe des programmations événementielles. Forcément, comme chaque année, le Davio, l'écomusée du Marais Vendéen à la Barre de Mont sera ouvert ce week-end en mode nuit des musées.
Oui, voilà, la nuit des musées, c'est un incontournable événement gratuit qui permet vraiment de découvrir le Davio de nuit. Donc le cadre est déjà magnifique, donc la raison de plus d'y venir. Et les médiateurs ont concocté un petit programme sur mesure avec de la découverte ornithologique pour la partie plutôt nature, à la redécouverte de l'exposition musique qui est toujours en place hein, dans la grange, donc autant en profiter. Et puis de la mise en avant d'objets de collection au niveau de la ferme du Davio. Donc ça va être très chouette.
Voilà, avec des objets à voir absolument. J'imagine Carole qui s'occupe aussi des collections du Davio.
Oui, tout à fait. Effectivement, comme disait Héloïse, au niveau du Davio, il y a encore l'exposition musique qui est en place. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vue l'année dernière, c'est l'occasion de venir la découvrir. Et puis après, je sais que les collègues médiateurs font tout un travail autour des objets un peu insolites et essayer d'expliquer certains objets dont on a perdu l'usage aujourd'hui. Et
ok, à voilà. Découvrir. Voilà. On va aussi voir le musée Milsando et l'exposition temporaire un peu différemment lors de la nuit des musées samedi soir.
Oui, donc pareil, là les médiateurs proposeront une visite guidée et également de manière exceptionnelle un atelier carreaux de plâtre pour faire le lien avec la maison et les peintures murales qui s'y trouvent.
Alors ça c'est sur inscription.
Oui.
Auprès du musée Milsando.
Oui.
Tout simplement. Et donc on rappelle, hein, comme toujours, là, la nuit des musées, c'est gratuit. Et alors on passe directement à la semaine suivante, c'est le vendredi 23 mai, ce sera le vernissage. Alors en général, les vernissages, c'est sur invitation.
Oui.
Alors j'imagine qu'il y a quand même quelques invitations, mais là vous avez choisi une date importante, une grande soirée, c'est le nom, ouverte au public. Pourquoi ouvrir ce vernissage?
Oui, tout à fait. Alors c'est une soirée qui se déroule en deux temps. En effet, il y a un vernissage plutôt officiel aux alentours de 18h. Et après, on ouvre au tout public parce qu'on aime bien sur nos sites marquer l'ouverture des expositions. Bon, les contraintes techniques et météo nous obligent à faire ça un mois après la date d'ouverture parce que c'est plus raisonnable.
Mais c'est pas grave.
Mais voilà, on en profite pour marquer l'événement dans les esprits aussi. Et on sait que les événements font venir un public parfois un peu différent de ceux qui pourraient être habitués au musée.
Alors, je crois qu'il y a quelques invités plutôt intéressants en termes d'animation. TSF Sound System.
Oui, alors on est très curieux de voir le public que ça va pouvoir nous emmener au musée. C'est une sorte de grand bal rétro avec toute une scénographie, avec des anciennes radios, une très grande collection de radios.
Okay.
Donc petit clin d'œil à vous,
Nomi Femme. Mais oui, bien sûr.
J'espère que vous serez
peut-être
là.
J'espère qu'on sera dans la radio si vous allez mettre le 93.1.
Voilà. Et donc il y a plein de radios, et il y a toute une scénographie lumineuse et musicale en fait qui est actionnée par des comédiens techniciens. Donc ça va durer pendant 2 heures et ça va vraiment animer tout le jardin du musée.
Super, avec le collectif Les Oeils qui était ce week-end à Biotopia, mais là samedi soir, la pluie a fait renoncer à cette soirée lumineuse que vous aviez prévue. Vous avez quand même eu 1500 personnes ce week-end hein, pour les 10 ans de Biotopia. C'est bien.
On est très content. On est très content. C'est une très belle performance pour une première.
Mais là, les Oeils reviennent. Alors c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils vont proposer?
Alors les Oeils, donc c'est donc eux qui vont proposer TSF Sound System, donc cette grande scénographie musicale et lumineuse. Et ils vont également agrémenter le jardin du musée avec leurs célèbres branches à jour et abat-jour qui vont illuminer le musée de manière très poétique.
Ouh, sympa ça.
Donc ça va vraiment plonger les visiteurs dès qu'ils vont entrer dans le jardin dans une ambiance assez chaleureuse.
À la tombée de la nuit en prime. Je vois costumerie, déshabillez-vous, présente.
Oui, la costumerie.
Déshabillez-vous, oui. Pas déshabillez-vous.
Oui,
hein,
oui, attention. Donc, c'est une costumerie un petit peu 70s, très festive, qui vient du collectif Engrenage de Rennes. Et les gens, en fait, sont invités à rentrer sous une petite tente, un petit chapiteau, et à choisir, comme dans une friperie, une tenue assez colorée. Et les comédiens de la compagnie sont là pour conseiller, pour aiguiller. Et pour l'avoir déjà expérimenté au Davio, on sait que ça met beaucoup d'ambiance parce que les gens sont direct. Festif après s'être costumé.
Et puis on pourra visiter, j'imagine, quand même le musée, la maison.
Oui, tout à fait. Les médiateurs nous ont encore concocté un super planning, programme d'animation avec des ateliers aussi pour créer de la gouache, pour découvrir l'exposition temporaire avec un nouveau regard.
Donc on regarde évidemment sur le site hein, du musée, vous avez la programmation. Et en fait, ce sont deux grands rendez-vous à venir, dont celui-là évidemment le 23 mai. C'est pas fini parce que vraiment toute la saison, vous mettez en place beaucoup de rendez-vous, des médiations, Carole, oui, Louis aussi d'ailleurs. d'ailleurs, avec des rendez-vous pour les petits. Alors déjà, l'éveil à l'art, c'est un des temps forts de cette saison.
Oui, alors c'est vrai que dans le cadre de cette exposition, en tant qu'exposition internationale, l'un des critères, c'est des dispositifs de médiation innovants. Et donc, il y a tout un travail de médiation qui a été conçu et de programmation en parallèle de l'exposition, avec notamment en tant que public cible les enfants, les petits. Et donc, oui, vous parliez de l'éveil artistique après la sieste. Il y a des visites autour de thématiques comme le corps, le portrait ou la composition pour décomposer les œuvres. Et je viendrai compléter ce que mentionnait Héloïse par rapport à la soirée vernissage. Il y aura également une exposition des enfants qui ont participé au dispositif national La Classe L'œuvre. Donc deux classes de collège et une classe de MFR qui ont réalisé des œuvres en lien avec notre équipe de médiation et donc les œuvres seront visibles ce soir-là.
D'accord, super. Autre exposition, on a pour tout le monde des visites guidées, des médiations particulières. Vous faites tout un effort pour l'accessibilité du site aussi.
Oui, donc il y a eu tout un travail de réflexion autour de la conception d'exposition pour répondre aux critères d'accessibilité en lien avec notre référente accessibilité. Ils ont mis aussi en place différents dispositifs permettant l'accessibilité des contenus, que ce soit par de l'audio description, des images tactiles ou du français simplifié avec des fiches de texte. Donc vraiment, l'exposition se veut la plus inclusive possible.
Et vous avez tout un programme vraiment à récupérer là, en papier, où j'imagine que tout ça c'est sur le site aussi. Oui. Les visites guidées, on ne peut que les conseiller parce que voilà, il y a plein de choses à découvrir, mais mieux vaut être avec vous peut-être ou d'autres médiatrices ou médiateurs pour en savoir un petit peu plus quand même. C'est un bonus. Ça, la visite
tout
guidée.
Se retrouve sur la programmation, donc sur le site internet ou sur des plaquettes papier. On fonctionne aussi à l'ancienne, ça marche très bien. Et il y a beaucoup de propositions, ouais. Donc chacun pourra trouver son bonheur.
Tout au long de l'année, pour la saison, c'est une exposition qui est temporaire, mais elle dure quand même toute la saison 2025. Mais écoutez, merci beaucoup, mesdames. On a dû rater quelques informations, mais il y a quand même pas mal de choses de dites.
Oui, on se reverra.
Je pense, Héloïse, qu'on va se revoir. L'été arrive, là, et il y a plein de choses qui arrivent. Merci beaucoup. Donc, on rappelle Nuit des Musées ce week-end et la grande soirée le vendredi 23 mai.
Merci Manuel, à demain matin, évidemment à partir de 7h pour les infos.
Oui, et à demain à midi et demi pour l'outil en main, les portes ouvertes à Beauvoir-sur-Mer, elles arrivent et ce sera avec eux.